Martha de Giacomi.
Bonjour.
Alors, vous êtes historienne de l'art, qui vient du Danemark, mais qui est depuis très longtemps en Valais. Comme je ne parle pas danois, on va faire l'entretien en français. Et on vous rencontre pour que vous nous parliez des Années Fauves, qui est l'exposition actuelle à la Fondation de Dianada à Martigny, et qui se poursuit jusqu'en janvier 2024.
C'est ça. Donc, c'est une exposition que nous avons organisée avec les musées d'art moderne à Paris. Donc, c'est la première collaboration avec ce musée. Pourtant, nous avons l'habitude d'organiser, de monter des expositions avec les grandes institutions françaises comme le Centre Georges Pompidou, donc habitué, comme le musée Rodin à Paris, comme le musée Marmotton-Monet et comme le musée Rodin. Mais c'est la première collaboration avec le musée d'art moderne qui nous a proposé cette exposition, Les Années Fauves.
Qui est dirigée par Fabrice Ergot.
Absolument.
Et vous avez travaillé avec son assistante qui est, à la française on dit... conservateur, je dirais conservatrice, Jacqueline Munk.
Jacqueline Munk est en effet la curatrice, la commissaire de l'exposition. Et c'est elle d'ailleurs qui a déjà organisé en 1999 la toute grande exposition au Musée d'art moderne, un peu le même sujet aussi, donc les Années Fauves. Et c'est vraiment une grande spécialiste de la matière. Alors on peut voir ici à Martigny, une bonne centaine, même 115 œuvres exposées. Il y a des peintures, il y a aussi des aquarelles, il y a des sculptures, il y a des objets qui viennent d'outre-mer, il y a des céramiques.
Il y a des dessins aussi, j'ai vu le graphite et aussi à l'encre.
Aussi, exactement, tout à fait. Donc, c'est une exposition donc, qui est très très riche et qui... s'étend sur une période, pas seulement sur la période fauve, mais les œuvres commencent déjà en 1897-98, jusqu'en 1912, parce que je précise bien, ce n'est pas une exposition sur le fauvisme, n'est-ce pas ? Puisque le fauvisme, comme on le sait, est le premier mouvement du XXe siècle qui va vraiment arriver comme une véritable explosion en 1905. Alors, historiquement parlant, le fauvisme se situe de 1904-5, disons plutôt 1905, en pensant donc au scandale qui va se produire au Salon d'automne en octobre 1905 et va s'éteindre en 1900, disons fin 1907-1908 pour laisser place à la suite donc au cubisme.
Martha de Giacomi, le fauvisme, pour les auditrices et auditeurs, c'est un terme qui a été lancé par Louis Vauxhall. Justement, lors de cette exposition du salon que vous mentionnez.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc, il avait cette fameuse exposition qui avait lieu au Grand Palais en octobre 1905. Et là, c'était une exposition, en fait, c'était une grande exposition qui se passait dans plusieurs salles. Et justement, dans la fameuse salle numéro 7, étaient accrochées 39 œuvres, dont 10 par Matisse, 9 par Derain, 5 par Marquet, 5 par Manguin, 5 par Vlaminck, disons 39 œuvres au total, et surtout des œuvres notamment de Matisse et de Derain qui étaient produites et créées à Collioure. Et c'était des œuvres, en fait, très révolutionnaires dans le sens que la couleur avait complètement perdu sa valeur descriptive. La forme, le dessin était volontairement négligé parce que pour le fauve, ce qui était important, c'est d'exprimer à travers la couleur, donc de la couleur, donc ce qu'il ressentait devant le sujet. Et il avait dans cette exposition, entre autres aussi, le célèbre tableau de Matisse, La femme au chapeau, qui conservé aujourd'hui au musée d'art, donc d'art moderne.
À San Francisco.
Absolument, à San Francisco. Et il y avait donc dans cette salle où les murs étaient couverts par ces toiles où explosaient carrément les couleurs, une toute petite statuette d'Albert Marque. Ne pas confondre avec Albert Marquet, un sculpteur Albert Marque qui avait réalisé donc un buste d'enfant qui était tout à fait très florentin, très classissant, très renaissant, et en fait qui contrastait fortement avec les horreurs qui étaient accrochées sur les murs. Et alors arrive Louis Vauxhall qui voit ces tableaux révolutionnaires, qui en regardant ce petit buste en forme, s'est exclamé en disant, tiens, on dirait Donatello parmi les fauves. Et c'est ainsi, voilà, qu'est né le terme fauvisme, qui sera le premier mouvement révolutionnaire au début du XXe siècle. Alors, il faut dire que le fauvisme n'est pas une école, c'est plutôt une réaction contre, d'une part, la peinture académique, une réaction aussi contre la peinture impressionniste. La scène artistique parisienne était quand même marquée par les 8 expositions impressionnistes, qui ont commencé en 1874 jusqu'en 1886, lorsque va naître aussi un autre mouvement contre lequel tourner les fauves, donc c'était le pointillisme ou le néo-impressionnisme ou le divisionnisme, disons 3 termes pour le même mouvement, qui était créé par Georges Seurat et Paul Signac. Donc ce mouvement qui était nouveau, puisque c'était une peinture très scientifique, élégante certes, mais sans émotion, puisqu'il s'agissait pour Seurat et Signac de proposer la toile à partir de minuscules, des milliers de minuscules petits points de couleur pure qui étaient juxtaposés pour que l'œil du spectateur fasse le mélange optique. Et justement, ces artistes-là, comme Seurat, comme Cross, comme Van Rieselberg, comme Signac, ils vont beaucoup s'inspirer des couleurs, des théories des couleurs de Chevreuil et des bien d'autres. Donc, une peinture sans émotion. Et justement, les fauves vont se révolter contre la tyrannie du divisionnisme, pour prendre les paroles de Matisse.
Donc, c'est... Mais Martin De Giacomi, est-ce qu'il y a aussi une réaction par rapport aux habits et leurs aplats qui restent très sages, très quand même... il n'y a pas d'explosion de couleurs, justement.
Non, il y a certains peintres aussi qui sont restés fidèles, on peut dire, dans notre exposition, qui sont restés fidèles aux peintres Nabi, à Bonnard, à Vuillard. Nous avons notamment Valta, qui n'était pas un pur fauve, mais qui est déjà un des premiers, qui en 1898, ici, réalise un paysage de Cagnes où la toile est... elle est exécutée avec cette touche un peu nabi à la manière de Bonnard, parce qu'il était en effet, Balta, très proche de ces artistes-là. Mais regardez, au niveau de la couleur quand même, là vous avez des troncs d'arbres qui sont carrément peints en rose. Et on veut montrer dans cette exposition que déjà, à la fin du 19e siècle, comme ici, 1898, que ces artistes-là veulent être modernes et se révoltent déjà très tôt contre cette peinture académique, et contre l'impressionnisme et contre la tyrannie du divisionnisme. Donc c'est pour ça que les années... C'est un grand éventail au niveau des années, donc 1898 jusqu'en 1912. Donc, je répète, ce n'est pas une exposition qui se concentre sur les fauvismes, mais l'exposition s'appelle bien « Les années fauves », donc tout ce qui se passe durant ces 15 ans d'années.
Par contre, vous avez mentionné déjà une citation de Matisse qui, me semble-t-il, avoir lu dans le catalogue, dit également qu'il faudrait mettre le soleil derrière la toile, tellement il y a une explosion de couleurs.
Oui, donc alors ça, en effet, ça se passe à Collioure. Ça se passe à Collioure, surtout, donc cette révélation comme quoi le soleil, la lumière est tellement forte que les ombres n'existent plus, donc les ombres disparaissent. Et ça se passe que cet été 1905, à Collioure, va être très important, puisque d'abord, Matisse part seul. Il part seul à Collioure. Pourquoi à Collioure? On ne sait pas exactement, mais on pense que c'était pour des questions, d'économie. Collioure, qui se trouve un petit village de pêcheurs, qui se trouve pas très loin de la frontière espagnole. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi Saint-Tropez ou Nice ou Cannes? Parce que, en fait, ces endroits-là étaient déjà, depuis le milieu du 19e siècle, des hauts lieux touristiques.
Avec le tourisme anglais, entre autres.
Complètement. Avec une hôtellerie hôtellerie très développée, avec des restaurants, des lieux
certainement... Des palaces.
Palaces, et des lieux très chers, n'est-ce pas? Et on pense que Matisse aurait plutôt choisi cet endroit, donc Collioure, tranquille, pour travailler tranquillement. Mais... il arrive d'abord seul au mois de mai, et là, il ne fait pas grand-chose, il n'est pas stimulé. C'est lorsque André Derain arrive, parce qu'il fait venir Derain, début juillet, et là, tout d'un coup, Derain, qui était 10 ans plus jeune que Matisse, grande amitié d'ailleurs entre les deux, et là, tout d'un coup, les deux artistes vont se booster, ils vont travailler intensément et vraiment découvrir donc, que la lumière, voilà, que justement que la lumière est tellement forte que les volumes disparaissent, mais surtout que les ombres sont inexistantes. Et c'est justement pendant cet été-là que Derain et Matisse vont peindre les toiles qui seront exposées justement au fameux salon d'automne.
D'où le fait que, voilà, le critique qui était à la mode à l'époque l'aura trouvé cette appellation de fauvisme. Et il y a quand même eu après de longues influences, puisqu'ils vont ouvrir la voie à d'autres mouvements très importants.
Tout à
du
fait.
Du XXe siècle.
Du XXe siècle. Et ça, on montre dans l'exposition. Donc, on peut faire le parcours. Nous avons, entre autres, de André Derain, Les baigneuses de 1908. Derain, qui pourtant, dans ses œuvres précédentes, a vraiment été, on peut dire, Derain était peut-être le plus radical des peintres fauves. Et quand on regarde ses toiles, on voit vraiment que la couleur sortait directement du tube avec un éventail assez violent au niveau des couleurs. Et là, nous avons, pratiquement vers la fin de l'exposition, Les baigneuses de Derain, avec une gamme de couleurs assez restreinte. On voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 corps féminins dans un ocre très chaud qui se frôle, qui se caresse dans une forêt certainement, puisqu'on voit du vert au fond, un peu de ciel bleu. Mais ce qui est étonnant, c'est à la fois la réduction des couleurs qui est remarquable ici, deuxièmement une grande recherche aussi au niveau de la géométrie, on frôle presque l'abstraction puisque les visages sont vraiment juste ébauchés, hein. Et là on sent déjà un peu son intérêt donc vers des nouvelles solutions,
Ce qui est très marquant dans ce tableau de Derain, c'est aussi le contour des silhouettes marquées au noir, comme ça enfoncé. C'est aussi une nouveauté.
C'est aussi un peu une nouveauté. Donc, c'est-à-dire, on dirait presque en souci de revenir vers vers les contours, vers la géométrie. Donc, on est déjà en 1908, il ne faut quand même pas oublier, c'est aussi l'influence de Paul Cézanne. Paul Cézanne qui est décédé en 1906 et dont il avait une importante rétrospective l'année suivante. Et cette rétrospective Cézanne va beaucoup marquer les peintres, aussi Picasso, donc Braque, Derain et beaucoup d'autres. Et donc ensuite, en 1907, n'oublions pas non plus que Picasso était déjà en train de réaliser à Montmartre, dans son atelier, le célèbre tableau Les Demoiselles d'Avignon. N'est-ce pas? Et je crois que personne n'avait vraiment le droit d'entrer dans son atelier, je crois, sauf Georges Braque. Et Braque aussi, ce qui est intéressant, Braque aussi va... de plus en plus intéressé à Paul Cézanne. Donc, Braque va carrément se rendre en été 1908 à l'Estac pour suivre vraiment les endroits qui étaient peints par Cézanne. Et Braque veut exposer en 1908 au Salon d'automne une douzaine de petites toiles réalisées à l'Estac. Mais ces toiles ne seront pas acceptées par la jury du Salon d'automne, notamment par le vice-président qui était Matisse à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Braque? Il se rend chez Kahnweiler, le célèbre marchand de tableaux allemand qui avait déjà aussi vendu pas mal, qui va vendre beaucoup de toiles aussi en Russie, à Morozov, à Tchoukine. Et Kahnweiler expose l'étoile de Braque. Et là, de nouveau, c'est la remarque, de nouveau, je crois bien, du même Louis Vossel qui voit cette étoile et qui dit, ah mais tiens, on dirait des petits cubes. Et voilà, donc le nom du mouvement suivant est né, donc le cubisme.
Il est resté dans l'histoire de l'art à travers les termes qu'il a inventés.
Comment, j'ai pas compris.
Louis Vossel est resté dans l'histoire à travers les termes qu'il a inventés.
Oui, tout à fait, on peut dire ça. C'était vraiment une sommité à l'époque, tout à fait. Donc, un homme extrêmement intelligent, hein, ça c'est sûr.
Et pour revenir à l'exposition, vous m'avez fait comprendre en début d'entretien qu'on va trouver des Picasso, il y a aussi Egon Schiele. Ça peut surprendre, parce qu'on vient, on se dit, on va voir les fauves avec leur influence sur les années qui suivent. Et on est étonné de voir quand même, par exemple, des œuvres d'Egon Schiele.
Oui, d'Egon Schiele. Et aussi, bon, c'est pour montrer aussi un peu les influences, en fait, qui se passent en Europe, qui vont se passer en Europe. Parce que, disons, ce désir vers une expressivité, c'est un peu un mouvement parallèle. Nous avons ce mouvement aussi en Allemagne, notamment auprès du groupe Die Brücke, avec Haeckel, Schmidt, Rottluff, ces artistes-là, qui eux aussi vont beaucoup s'intéresser aux nouvelles formes, aux nouvelles expressivités, qui vont s'intéresser aussi aux objets qui viennent d'Afrique, aux sculptures, aux masques d'ailleurs que nous avons exposés dans l'exposition pour montrer donc cet intérêt qui se manifeste pour ces objets.
De Nouvelle-Guinée, du Gabon et du Congo.
Congo, Côte d'Ivoire et tout. Et la même chose aussi, les Allemands. Donc c'est un peu une tendance donc, générale. Et puis en Autriche aussi, donc voilà, donc Schiele, vous avez vu, c'est nu, jusqu'à quel point ils sont très expressifs, pas fauve du tout au niveau de la couleur, parce qu'il n'y a pas de couleur, mais disons très expressif, très osé au niveau de la représentation du corps humain. Et Picasso, bien sûr, pourquoi Picasso? Picasso qui n'a jamais été fauve, bien sûr que non. Mais Picasso était bien présent pendant l'évolution du mouvement. Picasso allait voir des expositions. Picasso était exposé déjà par Bert Weil. Picasso était grand ami de la collectionneuse américaine Gertrude Stein. Et Picasso était en fait à ce moment-là en pleine évolution de sa période rose. Picasso a beaucoup plus cherché au niveau des volumes, au niveau donc fait des découvertes au niveau de la géométrie, mais n'a jamais été pendant cette période-là vraiment branché sur la couleur. Mais Picasso avait des liens étroits avec le seul fauve étranger qui était Keith Van Dongen. Keith Van Dongen avait son atelier carrément en face. Et Picasso et Keith Van Dongen ont peint les mêmes sujets, ont échangé leurs idées, sont allés ensemble dans des bordels, sont allés au cirque, ont peint les saltimbanques, les arlequins et tout ça. Et puis c'est ça qui est intéressant, n'est-ce pas? Donc
il faut l'émulation artistique.
Oui, tout à fait. C'est ça en fait que vous vraiment montrez dans cette exposition.
Ce que vous montrez aussi dans l'exposition. Et c'est vrai que c'est un plaisir de les voir, c'est toutes ces céramiques. Alors, pas tous les artistes ont touché à la céramique, mais vous pouvez peut-être nous en dire quelque chose.
Tout à fait. Donc, et ça, c'était l'idée géniale en 1907 du marchand de tableaux Ambroise Vollard. Alors, Ambroise Vollard va engager le plus grand céramiste de France, qui était André Mettet, qui avait son atelier à Asnières. Et Ambroise Vollard va commander donc toute une série d'objets, en fait des vases, des plats, des récipients, des boîtes en céramique, avec un céramique très blanc, très pur. Hein. Et ensuite, Ambroise Vollard va engager et rémunérer par les fauves, les peintres comme Matisse, comme Rouault, comme Van Dongen, comme Puy, etc. Donc de décorer, de orner ces objets-là. Et ces objets seront en effet exposés au Salon d'automne, donc en 1907, avec beaucoup de succès. Et quand on voit là, ces objets, c'est intéressant d'observer aussi, par exemple, ce vase de Matisse. Là apparaît pour la première fois le thème de la danse. que, comme on le sait, que Matisse va développer encore davantage lorsqu'il se rend à Moscou chez Tchoukine pour décorer sa cage d'escalier et puis aussi les grands formats donc, de la danse de cette année 1912 qu'il va réaliser. Donc c'est intéressant. Et là, nous avons un autre objet aussi, un vase de Vlaminck, regardez, où on voit toute son expressivité. Donc comme le tableau que nous avons de Vlaminck dans notre exposition. Regardez aussi l'explosion au niveau des couleurs et des formes aussi donc sur ce vase. Donc c'est intéressant de montrer l'ouverture d'esprit de ces fauves qui étaient ouverts à tout. Hein. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, ce n'était pas du tout le fauvisme une école, mais c'était plutôt un état d'esprit. Ouverture d'esprit, une question aussi d'amitié, parce que ces artistes, donc ils se sont liés d'amitié, ils se sont connus dans l'atelier de Gustave Moreau, ils vont se connaître là et vont rester des amis à vie, notamment il y a la cordée par exemple, Vlaminck, Derain, les deux inséparables jusqu'à la fin de leur jour. Et c'est ça qui est intéressant donc, dans ce mouvement.
Ils avaient en commun d'avoir été les élèves de Moreau, comme Signac, et puis du coup ils ont gardé les échanges et ils ont gardé cette façon de s'inspirer, d'avoir une émulation commune.
C'est ça, mais surtout aussi, c'est grâce à l'enseignement de Gustave Moreau. Moreau, par exemple, je vais vous citer quelque chose. Moreau était, malgré sa peinture académique, était extrêmement moderne. Alors, dans son atelier, donc, vous connaissez la peinture de Gustave Moreau, très académique, assez symboliste. Mais Gustave Moreau leur enseignait une grande modernité. Il disait par exemple, je cite, « La couleur doit être en adéquation avec l'idée du peintre. Elle doit être au service de son imagination et non pas de la nature. » Vous vous rendez compte, c'est extrêmement moderne. Ou bien il disait aussi…
L'avant-gardiste.
Bah, complètement. « Faire simple et s'éloigner du faire lisse et propre. » Vous voyez, donc, cette jeune génération, donc, ils entendent ça, alors ils sont tous sur la même longueur d'onde, et c'est à partir de là donc, que vont naître ces amitiés entre eux. Et ils vont aussi, même aussi, après la mort de Moreau. Moreau meurt d'un cancer en 1898, et là, ils vont continuer de se voir. Par exemple, Manguin, qui n'avait pas de soucis d'argent, contrairement à ses amis, et donc leur prêtait son atelier, et là ils étaient à 3, 4, 5 ensemble peindre le même modèle, et parce qu'ils sont aussi intéressés beaucoup au nu, hein, mais dans le sens la déformation volontaire du nu, s'éloigner de la beauté de l'idéal de la beauté féminine qu'on connaît depuis la Renaissance. Non, pour eux c'était un lieu d'échange, ils ont peint le même, ils se trouvaient devant le même modèle et ont échangé leurs idées, comparé leurs toiles et ont commencé vraiment à avoir des échanges très, très vifs, très importants.
Alors, Martha De Giacomi, vous avez mentionné beaucoup d'artistes, Derain, Vlaminck, Matisse, bien évidemment. Il y a également des artistes comme Puy, mais il y a aussi Dufy qu'on a sur l'affiche. Vous avez choisi Dufy justement pour l'affiche.
Oui, on a choisi, parce que Dufy, donc il a... C'est vrai, il a eu pas mal de styles, hein, mais on a trouvé justement ce Dufy de l'affiche très fauve, très net, très fauve au niveau des formes très simplifiées, au niveau de la force de la couleur aussi. Vous avez vu sur l'affiche, vous avez le dos, ces personnages de dos qui sont en train de regarder donc, les sports maritimes. Ça se passe évidemment dans le nord, parce que n'oublions pas que Dufy était un des trois fauve normand. Il avait Raoul Dufy, il avait Braque et il avait Otton Frief. Et puis ces peintres-là, tous les trois, avaient beaucoup de plaisir aussi de peindre les activités donc à leur plage, donc que ce soit à Honfleur, que ce soit au Havre, la plage de Sainte-Adresse. Donc c'était des sujets très très privilégiés.
Les ports.
Oui, très important. Et c'est vrai que ce tableau-là, en fait, cette affiche-là, donc elle est très parlante, avec des contrastes de couleurs aussi. Vous avez vu la couleur de la mer qui est carrément turquoise, avec les drapeaux français sur les bateaux. Donc oui, on a trouvé, c'est une très belle affiche.
En tant qu'historienne d'art, est-ce que vous pouvez nous éclairer, Martha de Giacomi, sur l'influence qu'a eu le fauvisme sur les mouvements qui ont suivi?
Vous
avez mentionné le cubisme.
Oui, le cubisme. Est-ce qu'on peut aussi presque... est-ce qu'on peut aussi parler un tout petit peu de l'abstraction? Donc, c'est vrai que les... Oui, pourquoi pas? Puisque comme les fauves négligent volontairement le détail, nous avons donc justement une petite nature morte de Matisse qui date de 1898. Et c'est uniquement un amalgame donc, de formes géométriques. Oui, on peut, je dirais que oui. On peut mentionner donc, aussi l'abstraction, donc cette volonté qui, en fait, qui va naître avec Kandinsky et même avec Picabia aussi. Voilà, cette volonté de s'éloigner de la réalité. Oui.
Et par rapport justement à l'exposition, donc, on l'a compris, vous avez travaillé avec le Musée d'art moderne de Paris. Mais il y a de nombreuses pièces qui sont déjà à Dianada, qui appartiennent à la Fondation Dianada aussi.
Il y a quelques-uns, oui, bon, pas si nombreux que ça, mais donc, il y a quelques pièces voilà, de la collection de Leonardo Dianada, notamment la tête du fou de Picasso, magnifique, ce bronze, la tête d'Arlequin de 1905. Il y a aussi la superbe toile, aussi de la Fondation Pierre Dionada, donc de Manga, 1905, aussi l'année fauve, qui représente Jeanne, donc pas mal le manga, qui représente sa femme Jeanne, donc la femme à la grappe. Magnifique, grand format, hein, super tableau d'ailleurs, qui voyage pas mal parce qu'il est souvent sollicité par d'autres institutions. C'est vrai. Sinon, comme prêteur, il y a aussi le musée de Bordeaux. Il y a le musée d'Ini, il y a des collections privées suisses aussi, françaises aussi. C'est vrai, ce sont des œuvres très intéressantes.
Alors, malgré le fait que vous avez joué avec un calendrier difficile, puisque le Kunstmuseum à Bâle va aussi à son exposition fauve, est-ce que vous avez pu quand même facilement obtenir toutes les pièces que vous exposez ?
C'est-à-dire, oui, on a pu obtenir pratiquement tout, mais on a dû aussi faire des concessions.
À cause du Neuhaus de Bâle.
Oui, l'exposition de Bâle, puisque, donc, disons, une programmation des expositions, ça se passe des années avant. Ça se passe, ça peut prendre parfois une dizaine d'années, hein, donc, parce qu'il faut solliciter les institutions, et un commissaire choisit tel et tel tableau, donc vraiment ça se prépare longtemps d'avance. Et 5 tableaux donc, sont partis de chez nous donc, pour Bâle. Donc 5 tableaux fauves de Derain, notamment de Derain, de Braque et de Matisse qu'on a dû céder. Mais malgré tout, donc elle a tellement d'œuvres, donc il a quand même 100-115 tableaux donc, et œuvres d'art et sculptures donc à voir chez nous.
Ben c'est magnifique. Et en plus, cette exposition se poursuit, comme on l'a dit, jusqu'en janvier. Il y a des manifestations autour de l'exposition également.
Il y a, bien sûr, donc, il y a des conférences, il y a des visites commentées. Donc, on organise en principe tous les mercredis soirs à 19h pour le public, sans besoin de réserver d'avance, donc des conférences sur cette exposition qui se passe dans la salle d'exposition animée avec avec des diapositives. Donc l'exposition est expliquée, commentée. Il y a, je crois, 2 ou 3 mercredis où nous avons un concert où la visite est annulée puisqu'il y aura un concert. Je crois que c'est notamment le 18 octobre, il a phasisé, donc là, mercredi, donc là, il n'aura pas la visite commentée. Et en décembre, c'est un mois assez calme, on n'est pas sûr, chaque année, on n'est pas sûr de...
Vous adapter.
Oui, on s'adapte, on verra, oui.
Et avant de terminer, merci pour votre temps, Martha de Giacomi. À titre personnel, qu'est-ce qui vous est cher dans le fauvisme?
Oh, qu'est-ce qui m'est cher? Vous voulez dire au niveau du tableau?
Voilà, est-ce que vous avez peut-être une préférence pour certains artistes ou certains tableaux?
Écoutez, donc, c'est assez... Vous savez, ce que je trouve fascinant, c'est vraiment cet intérêt des fauves pour justement pour la sculpture, notamment africaine, pour les masques et pour les masques et les sculptures. Et ça se voit notamment, bon, ça se voit dans plusieurs œuvres, mais notamment chez André Derain, les trois personnages assises. Bon, c'est un très beau qui est parti à Bâle aussi, mais on peut le voir à Bâle. Hein, il est très bien accroché là-bas aussi, puisque j'étais au vernissage à Bâle, donc le 1er septembre. Donc j'ai tout vu, j'ai revu d'autres tableaux donc là-bas.
Vous confirmez que les six messes de Bâle sont aussi bien que les six messes de Martigny.
C'est différent, mais c'est très bien. Non, c'est une très belle exposition à Bâle. Donc ça, non, mais c'est, eux, ils sont concentrés sur le fauvisme, tandis que nous, c'est, disons, plus riche, je veux dire, au niveau de élargissement, donc au niveau des années, donc, parce que ce sont les années fauves qu'on expose ici, c'est ça. Voilà.
Donc, vous ne nous avez pas dit si vous avez des préférences, et lesquelles?
Oui,
c'est difficile.
Bon, c'est vrai, j'aime beaucoup de Derain, justement, ce tableau, donc, que j'avais vu, des trois personnages sur l'herbe. Par rapport au vase, donc, où on voit par rapport à la sculpture africaine. Oui, donc c'est difficile à dire, c'est difficile. Ce que j'aime, c'est le concept de notre exposition, on peut dire ça. Parce que c'est riche, c'est intéressant, c'est... Oui, donc je ne peux pas dire que je préfère tel et tel tableau, difficile à dire, c'est vraiment un ensemble, c'est l'ensemble que j'aime.
Et par rapport à l'influence de ces statues africaines dont vous parlez, on imagine que c'est aussi lié à l'exposition universelle qui faisait venir des colonies, justement des œuvres, des sculptures.
Ça c'est plutôt l'initiative de André Derain. Mmh. André Derain sera envoyé à Londres par son marchand Ambroise Vollard. Mmh. Il part à Londres au printemps, donc en février ou mars 1906. Dans le but, c'est-à-dire, Vollard lui commande de peindre, faire des vues de Londres un peu, disons, dans l'esprit de Monet. Mais attention, pas peindre comme Monet, mais dans l'esprit un peu, donc le bridge, le pont, donc la maison du Parlement. Et comme il pleuvait souvent à Londres, qu'est-ce qu'il fait de Rhin ? Il va au musée, au British Museum, et c'est là la révélation. Donc, il va découvrir justement ces objets-là, donc des masques, donc des statuettes qui venaient de partout, et il va bombarder Matisse avec toute une correspondance. Il écrit depuis Londres. Je peux vous citer une lettre très intéressante, voilà, qui date du bas de mars 1906. Derain écrit à Matisse, je cite: là sont entassés pêle-mêle, pour ainsi dire, suivez-moi bien, les Chinois, les nègres de la Guinée, de la Nouvelle-Zélande, de Hawaï, du Congo, les Assyriens, les Égyptiens. J'ai vu le monde entier, même plus que si j'y avais vécu, car chaque forme, dans son langage universel, m'a enseigné les aspirations, les idées d'autres races, d'autres temps. Et maintenant, cette fièvre donc de la découverte de d'autres cultures va se propager en France. Alors Matisse commence à s'intéresser. Ils vont aller avec Vlaminck au musée du Trocadéro, entre autres, et ils vont voir des expositions, parce que maintenant commence donc cet intérêt pour ces objets-là, donc tout à fait nouvelles. Ils vont commencer aussi à les collectionner, à les acheter. Picasso également, donc les Demoiselles d'Avignon, donc on voit l'influence des masques au niveau des deux femmes à droite. Donc, et ça, c'est très intéressant. Et c'est donc pendant la période fauve que va naître cet intérêt pour ces objets. Et les artistes vont s'inspirer à partir de ces nouvelles formes donc très expressives. Et la disproportion aussi qu'on voit dans ces sculptures africaines, notamment Côte d'Ivoire, où les torses sont extrêmement longues, les bras très allongés, les jambes très courtes. Voilà,
Têtes très importantes.
Oui, tout à fait, très important, absolument. Les masques fins aussi, que Picasso va acheter, que Derain achète, donc voilà.
Alors on a compris l'engouement de ces artistes pour les couleurs et pour les statues, les objets qui viennent entre autres d'Afrique. Merci de nous avoir transmis votre passion, Martha Di Giacomi. Merci pour votre temps.
Merci à vous. Et venez ici, donc, parce que c'est vraiment très, très, une très belle exposition.
On prend note. Merci, Martha Di Giacomi.